chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Hey, salut Charles.
Content de te retrouver.
Ben oui, ça fait quand même quelques semaines. Hein.
Ça oui.
Ça passe vite.
Oui, ça passe vite. Ça passe trop vite, mais content
l'été,
d'être...
On est déjà rendu à l'automne, je peux te dire. Je suis en Estrie, en vacances. on n'est pas tombé sur la meilleure semaine.
Ben là, c'est ça. Puis j'ai une pensée pour ma blonde, entre autres,
ben
aussi.
Ben oui, qui... elle aussi qui est en vacances.
Oui, c'est ça. Puis qui fait pas beau depuis qu'elle a décidé de prendre... elle n'a pas décidé de prendre ses vacances quand il faisait beau. Il faisait pas beau, mais depuis qu'elle est en vacances, elle pleure sans cesse, surtout que son mari n'est pas là. Enfin, hey, je me dois de commencer par ça, de virer un petit peu notre heure de bord. As-tu vu hier Tim Walz, le colistier de Kamala Harris? As-tu regardé la série Disco d'ailleurs hier soir?
J'ai écouté la série Disco, je n'ai pas écouté le sien encore, je l'ai enregistré parce que moi je suis un couche-tôt, alors je ne sais pas à quelle heure qu'il a prononcé ça, mais les deux derniers soirs, ça se finissait autour de minuit.
Ouais.
Et puis moi rendu là, je suis couché, alors je vais l'écouter tantôt, mais j'ai entendu des bribes, ça a l'air que ça n'a pas été très long. Contrairement à d'autres discours qu'on a entendus cette semaine.
Oui, c'est ce qu'on nous a dit.
Ça a été assez percutant. Là.
Tout à fait. Donc, il a mis son chapeau de coach Walz.
Oui, son chapeau de coach Walz. Écoute, on peut bien commencer par ça. Hein. Ça a été un des revirements les plus spectaculaires de l'été, ce qui s'est passé le 21 juillet, lorsque M. Biden a annoncé enfin... selon plusieurs, qu'il ne sollicitait pas un deuxième mandat. Bon, certains parlent d'un coup... Trump, il parle d'une espèce de coup d'État dans le sens qu'on a tassé Joe, puis on a placé à sa place Harris, qui n'a pas reçu un vote, puis il disait toutes sortes d'affaires. Bon, c'est sûr que c'est très particulier ce qui se produit en ce moment, puis bon, c'est sûr qu'il faut prendre la convention démocrate au même titre que la convention républicaine d'il y a quelques semaines. C'est un show. Tout le monde a de l'air uni, tout le monde a de l'air pompé, on va gagner.
Tout le monde est confiant. Ah oui.
La réalité, c'est que la campagne ne fait que commencer. Et les sondages indiquent à ce jour que rien n'est joué encore. Et moi, je m'attends quand même à une campagne à laquelle Trump nous a habitués, c'est-à-dire sale, vicieuse, des attaques à n'en plus finir. C'est sûr que Harris doit défendre le bilan de Biden, qui n'est pas parfait. Son bilan, comme n'importe quel président, n'a pas un bilan parfait. Mais je voyais sortir un chiffre hier, quelque chose comme 800 quelques mille emplois qui n'auraient pas été créés, alors qu'on avait prétendu qu'ils avaient été créés sous Biden. Donc, c'est sûr que ça va devenir un point d'attaque. Puis c'est sûr que Trump demeure plus solide généralement lorsqu'il est question d'économie que les démocrates. Mais chose certaine, écoute, ce qu'on a réussi à faire dans le camp démocrate pour rallier tout le monde derrière Harris, ça relève, c'est spectaculaire. Là, j'écoute la convention.
C'est unique dans l'histoire américaine.
C'est unique, puis j'écoute ça depuis le début de la semaine. Et tu sais, c'est un beau groupe uni. J'ai écouté Barack, j'ai écouté Michelle Obama. Hier soir, j'ai écouté Clinton, j'ai écouté Hillary lundi, j'ai écouté Pelosi hier. Bon, toute la grosse gomme est là, mais la vraie campagne va commencer après cette convention-là. Ouais. Il faut aussi rappeler que Mme Harris, depuis qu'elle a été désignée ou couronnée, certains parlent même d'un couronnement, elle ne s'est pas adressée directement aux médias. Hein. Elle est couvée, elle est protégée. Là, la vraie game va commencer lorsqu'elle va avoir affaire aux médias. Il va y avoir des débats. On ne sait pas encore combien au final, mais on sait qu'il y en a au moins un. C'est loin d'être joué, là. Tu sais, tout le monde qui pense qu'elle va sauver la mise. Les démocrates sont en meilleure position qu'ils étaient avec Joe Biden après le débat désastreux du mois de juin. Mais tu sais, c'est pas joué, là. C'est pas dans la poche.
Bill Clinton l'a dit hier.
Lui-même l'a dit, ouais. Barack l'a dit, Michelle l'a dit, ils l'ont tous dit, ouais. Ça ne sera pas facile. M. Trump va continuer de faire de la politique comme il le fait. Puis c'est sûr que du côté Trump, on entend moins parler cette semaine, c'est normal, c'est la convention démocrate, mais ça va se remettre à jouer dur dès la fin, donc la convention qui se termine aujourd'hui. J'ai hâte de voir maintenant les prochaines semaines, parce qu'il reste peu de temps, là. Il reste 11 semaines. On a d'un côté Trump et Vance. On voit que Vance, ça, il fait pas grand-chose. Vance, là, c'est un mini-Trump, là. C'est un mini-MAGA. Donc, Trump, il a choisi son mini-mi avant le changement du côté démocrate, parce qu'il se disait, je suis le plus fort, j'ai pas besoin d'aller chercher du monde, des électeurs du côté des indépendants. Alors, moi, je choisis quelqu'un qui me ressemble, mais là, ça risque de jouer des tours contre lui, ouais, parce qu'il ne va pas ratisser plus large avec Vance.
Tout à fait. Là, on alors qu'on sait que les indépendants vont être, c'est ce vote-là qui est déterminant.
Écoute,
là,
l'élection va se jouer par des poignées d'électeurs ici et là dans les États clés. Les États déjà vendus aux républicains, on les connaît, déjà vendus aux démocrates, on les connaît. Là, c'est les swing states qui font comme d'habitude la différence. Puis dans ces États-là, c'est des poignées d'électeurs ici et là dans des comtés qu'on va chercher.
Parce qu'on le rappelle, il faut s'inscrire. Si on veut voter aux États-Unis, on doit aller s'inscrire. Et en s'inscrivant, on doit dire un peu, évidemment, quelles sont nos allégeances, est-ce qu'on est républicain, démocrate, ou sinon, si on ne les révèle pas, on est indépendant. C'est 3% de l'électorat, c'est eux autres qui décident.
Absolument. Ce que j'ai trouvé fort intéressant aussi hier soir à la Convention démocrate, c'est qu'il y a eu quelques personnes, quelques républicains qui se sont présentés, dont le type en Géorgie qui s'était fait demander par Trump de lui trouver 17 000 ou 11 000 quelques votes. Il l'a dit ouvertement, il dit « Je vais voter Kamala Harris, j'ai eu des menaces de mort, tout ça, puis Trump, il s'en est foutu comme de l'an 40. Ouais. » Il continuait ses tactiques, il dit « Moi, je vais voter pour Mme Harris et je vais essayer d'inciter le plus de gens que je connais parmi les républicains, les indépendants, à faire de même. » Donc, il y a ça qui joue contre le camp Trump. Il faut se le dire aussi, contre le camp Harris, mais ça ne se dit pas, mais pour plusieurs Américains, l'idée de voter pour une femme, noir de surcroît, ça va peser dans la balance aussi. Dans quelle mesure, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que chez certaines personnes, chez certains électeurs, ça dérange, tout comme Barack Obama dérangeait et dérange encore chez certains électeurs.
Ouais.
Malheureusement, même si on est en 2024, c'est un facteur qui va jouer chez certains électeurs. Fait que c'est vraiment, rien n'est joué. Et je voyais un sondage hier sortir, je pense que c'était sur CNN, au niveau des grands électeurs, mais ça aussi, ça varie d'une journée à l'autre. Harris serait à 2,70, Trump à 2,68. Imagine, ça prend 2,70 pour remporter la présidence. Imagine si ce scénario-là se matérialise, ça va être laid, parce que Trump, il ne se laissera pas abattre de même, puis il ne partira pas en disant pas un mot, il va mobiliser ses troupes.
Puis c'est sûr qu'au final, il va contester en disant elle n'est pas légitime aussi. Là,
comme je le dis, peu importe le scénario, si Trump gagne, ça va être un chaos. Puis si Trump perd, ça va être un chaos.
Bon,
il est pris dans une situation de chaos, peu importe.
Parlant de chaos, le geyser de vendredi dernier,
ça
en fut tout un, là.
S'en fut tout un. Écoute, l'année passée, c'était les feux de forêt là, qui avaient mobilisé beaucoup notre attention collective. Cette année, je pense que c'est l'eau, hein, parce que on regarde ce qui s'est passé dans la foulée de Debbie, ce qui s'est passé au Québec. Et tout récemment, Geyser. Bon, c'est deux affaires différentes, mais tu sais, ça nous montre notre fragilité. Si je reviens à Debbie. Ouais. On se croyait un petit peu relativement, on se croyait immunisé à subir des queues d'ouragan. Tu sais, parce que souvent ça passe du côté des maritimes, la courbe, et puis là c'est les maritimes qui sont
fortement. C'est rapide par définition. Aussi, un ouragan, c'est plus le cas.
Là, disons qu'on s'est fait frapper par une queue d'ouragan, on voit ce que ça donne. Hein, c'est énormément de pluie, ça fait peur. Écoute, comme nous tous, on voyait la pluie tomber cette journée-là et on se disait, est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Alors là, on sent que le climat change, puis on a des manifestations très, très, très probantes. Pour ce qui est du geyser, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques, mais c'est très préoccupant. Parce que, c'est un tuyau relativement récent. On dit que ça a
85.
Été installé en 85 et que ça a une durée. C'est supposé d'avoir une durée de vie de 100 ans. Et là, hier, on disait déjà, c'est sorti aux nouvelles, qu'il y aurait eu des problèmes avec l'armature d'acier sur le tuyau qui a lâché. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'il y en a pour 175 km de ces tuyaux-là dans le réseau. C'est des énormes tuyaux. Et s'ils sont tous en état d'usure avancée, ça ne présage rien de bon pour la suite des choses. Écoute, c'était quelque chose. Moi, j'étais en vacances. Je suis en vacances depuis le milieu de la semaine passée. Je me lève. Et j'ouvre la télé, il est autour de 6h quelques, et je vois ça, c'est « my God, qu'est-ce qui se passe? » Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est des vies humaines, hein? C'est des gens qui se sont fait inonder, c'est des commerces, Télé-Québec.
Tout à fait, on a parlé avec Éric Nolin. J'ai parlé avec Éric Nolin, ancien animateur de radio. Éric, qui désormais travaille pour une firme d'intégration média, qui a été dépêché pour venir en aide aux gens de Bell Media pour déménager tous ses studios dans d'autres lieux, puis d'essayer de régler le problème là-bas également, ce qui n'est pas du tout évident. Il nous a expliqué l'ampleur de la chose. Ce matin, on apprenait également que les archives de Radio Télé-Québec aussi avaient été touchées.
Donc, les costumes de Passe-Partout.
Ben oui.
Hein, ont été endommagés.
Ben oui, il semblerait que l'original de Marie Ekel n'a pas été touché, mais les autres, on va en savoir davantage. Puis il y a autre chose aussi, il y a plein d'archives.
Non, c'est le cas. Ben écoute, il y a eu des millions de litres déversés pendant 4 heures. Puis c'est comme ils ont très bien expliqué pendant ça se passait, on ne peut pas fermer une vanne de même. Ça ne se ferme pas en 2 minutes. Là,
parce qu'on va créer
c'est
d'autres problèmes.
Comme 800 tours. Oui, on crée des coups de bélier qu'on appelle, puis ça va péter ailleurs dans le réseau. Non, c'est quelque chose.
Mais Stéphanie Grandmont en parle d'ailleurs ce matin dans la presse. Allez lire ça, là, de nos infrastructures. Hein. On s'en va dans le mur. Là.
Et j'ai vu qu'il y aura assemblée du conseil municipal à Boucherville lundi. Puis je lisais hier dans le journal local en ligne que ça a l'air que ça à Boucherville aussi, il y a des secteurs qui ont été inondés. À répétition, ça a l'air. Puis là, il y a des citoyens qui s'en vont à l'hôtel de ville puis vont déposer une pétition. Puis
on en parle dans le bulletin nouvelle aussi de Saint-Bruno aussi. Il y a des endroits qui ont été touchés.
C'est partout parce que pendant des décennies, les politiciens, pour se faire élire, promettaient des nouvelles affaires. On va faire un beau centre de sport, une belle piscine, ça. Mais pendant ce temps-là, on a négligé l'infrastructure existante. C'est partout pareil. Les citoyens sont responsables en partie parce que les citoyens ne votent pas pour des politiciens plates qui promettent juste d'entretenir ce qui existe. On veut du nouveau, on veut du plus beau, on veut du plus gros. Bien, c'est ça que ça donne à un moment donné, c'est qu'on néglige. Puis là, on se rend compte que notre infrastructure est vulnérable. Et c'est pas drôle, là, parce que ça peut affecté, ça peut inonder ton sous-sol, ça peut avoir plein de répercussions.
On n'est plus assurable à un moment donné.
Je pense que les citoyens doivent se responsabiliser en vue des prochaines élections, puis d'arrêter de toujours voter pour ceux qui promettent le plus puis le mieux, puis d'essayer de voir, ça serait-tu bien qu'on vote pour des gens qui vont entretenir adéquatement ce qu'on a, parce qu'on est de plus en plus riche.
Ils mettent des tonnes de cônes oranges dans nos rues.
Ben oui, mais c'est un mal nécessaire.
Tu sais bien, la mairesse de Montréal l'a dit la semaine dernière, vous savez, les cônes oranges dans les rues, c'est pas juste pour faire des pistes cyclables. J'ai ri tout seul à la maison. Il a dit, on travaille très fort à changer des choses, mais on a pris énormément de retard.
Ouais. Énormément de retard, puis ça combler le déficit d'entretien actuel qu'on a partout.
À deux reprises, moi, Sébastien, puis on va terminer là-dessus, mais quoi que je vais te donner le mot de la fin, à deux reprises, là, chez moi, en quittant pour venir au travail depuis Saint-Bruno, j'ai vu il y a de l'eau qui arrive de telle rue, de tel endroit, Place Champlain l'an dernier, qui est tout à côté de chez nous, à Saint-Bruno. J'ai dit, mon Dieu, il y a de l'eau qui ça circule, c'est pas un backwash de piscine, c'est quoi cette affaire-là? J'ai appelé le 911, puis c'est un tuyau qui a sauté. Ils sont venus le réparer. C'est arrivé devant chez moi à 2 ou 3 reprises également, mais j'ai appelé 2 fois la nuit, là, à 5 heures du matin, pour dire venez régler telle affaire. Puis, tant et si bien que je me dis, mais on attend que ça pète pour réparer. Puis, c'est un peu ça qu'on fait un petit peu partout. Des fois, c'est plus spectaculaire et tragique, comme on le voit. Là. Évidemment, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu bien des gens. Il y a encore des gens qui n'ont plus de toit au-dessus de la tête. Là. Donc, on attend que ça pète pour réparer. Puis ça, c'est pas bon signe.
Non, mais c'est
on impossible est rendu là, de faire autrement, je pense.
Je pense qu'on a des bouchées doubles et triples à mettre partout. Là. C'est pas juste à Boucherville, à Saint-Bruno, à Montréal. Toutes les municipalités ou presque ont des déficits d'entretien. Puis ça va nous réserver de très mauvaises surprises. Ouais. D'autant plus qu'on a vu que nos réseaux, à bien des endroits, ne sont pas capables de prendre en charge les quantités d'eau qui se déversent. Donc, ça crée toutes sortes de problèmes. Je pense que cet été, ça nous a démontré que nous sommes très vulnérables.
Oui. Allez chercher vos pelles, commencez à creuser devant chez vous, ça va déjà être fait. Sébastien, content de te parler. J'y serai pas la semaine prochaine. Ce sera Stéphane Blanchette qui me remplacera la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, avec la rentrée, évidemment, la nouvelle saison, la 12e de notre émission, imagine. T'étais là déjà, t'étais avec les meubles, toi, t'étais là.
Moi, j'étais déjà là avant que t'arrives. Ça fait longtemps, 2010.
Je parle à un ancien, je vais faire attention. Dans 2 semaines, Sébastien. Passe un beau week-end, le soleil s'en vient, là.
Good.
Mets une bûche en attendant dans ton foyer.
Ouais, ça en prend. Salut.